Radio Prague, les informations.
Bonjour, un deuxième individu a été mis en examen pour avoir fait l'apologie des attentats de Christchurch. Reconstitution historique de la première défenestration de Prague. Et puis en foot, le Slavia risque de se voir sanctionné par des matchs à huis clos. La police tchèque a mis en examen un deuxième individu qui avait exprimé son approbation avec les attentats de mars dernier à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Ces attentats contre des mosquées attribués à l'extrême droite avaient fait 51 morts et des dizaines de blessés. Selon Martin Billy du bureau du procureur général, les deux affaires sont en phase préparatoire et aucune autre information ne sera pour l'heure rendue publique par les autorités judiciaires. S'il est reconnu coupable, l'accusé encourt une peine de prison de 15 ans, voire une saisie de ses biens. Le quotidien en ligne Denik N avait révélé en mai dernier que la police enquêtait sur plusieurs personnes également soupçonnées d'avoir fait l'apologie de ces attentats sur les réseaux sociaux, s'appuyant sur plusieurs messages postés après la tragédie. La mairie du 2e arrondissement de Prague a préparé un programme pour toute la journée de mardi à l'occasion du 600e anniversaire de la première défenestration de Prague. Le 30 juillet 1419, des partisans des Hussites en colère avaient pris d'assaut l'hôtel de ville de la nouvelle ville de Prague et avaient jeté par la fenêtre sept échevins catholiques. Cette défenestration est considérée comme l'élément déclencheur des guerres hussites qui durèrent jusqu'en 1436. Le programme de la journée organisé sur la place Charles où s'est déroulé l'incident consiste notamment en une reconstitution historique de cette défenestration à 17h. Plus de la moitié des Tchèques se disent insatisfaits du système judiciaire dans le pays. D'après une étude réalisée par l'agence STEM, 53% des personnes interrogées ont déclaré ne pas être satisfaites de l'état de la justice et 32% ont estimé qu'elle nécessitait une réforme en profondeur. Les personnes âgées, les petits et moyens entrepreneurs, tout particulièrement, ont exprimé leur insatisfaction vis-à-vis de la lenteur des tribunaux, tandis que les Tchèques plus jeunes interrogés sont plus tolérants dans leur approche. Le club du Slavia pourrait se voir infliger des matchs à huis clos, fait savoir le président de la commission disciplinaire de la Ligue de football, Richard Bacek. La décision finale de la commission sera rendue ce jeudi. Le club de foot pragois collabore actuellement avec la police pour retrouver trois responsables d'incidents qui se sont déroulés dimanche soir dans le stade Eden pendant le match contre le Sigma Olomouc. Des tirs de feux d'artifice normalement interdits ont visé la tribune des supporters d'Olomouc et le match a dû être provisoirement interrompu. La sanction pourrait être d'autant plus importante que le club pragois est déjà en sursis. Le club avait en effet été sanctionné la saison dernière à cause du comportement de certains de ses supporters. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Ignats. C'est un temps toujours instable et orageux qui régnera sur une bonne partie du pays. Les températures en très légère baisse oscilleront entre 24 et 28 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Anna Kubišta pour son journal. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a rencontré à Bruxelles la présidente de la future Commission européenne avec comme objectif d'obtenir un portefeuille à caractère économique pour l'eurocommissaire tchèque. Nous en parlerons dans les prochaines minutes. Dans ce magazine d'actualité, nous reviendrons aussi sur la révocation du ministre de la Culture, Antonín Staněk, avant de parler du Fonds national pour la cinématographie qui a coupé le robinet des subventions aux productions étrangères. Pour terminer, une rencontre avec Mohamed Sina Ostovar, un pharmacien marocain qui a fait ses études en République tchèque. Merci d'être à l'écoute de cette émission de Radio Prague. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš était à Bruxelles ce lundi pour rencontrer la future présidente de la Commission européenne. Il a proposé à Ursula von der Leyen la candidature de l'actuelle eurocommissaire tchèque Věra Jourová, pour laquelle Prague espère obtenir une compétence importante à caractère économique au sein de la Commission.
Nous avons eu un tête-à-tête très agréable avec Ursula von der Leyen. Pendant plus d'une heure, nous avons pu aborder tous les sujets importants liés à l'environnement, à la politique migratoire, au budget européen, au Brexit et aux affaires internationales. Nous avons évidemment évoqué la candidature de Věra Jourová au poste de l'eurocommissaire tchèque. Elle a déjà fait preuve de ses qualités lors de son précédent mandat. Elle a exercé un portefeuille difficile et tous les premiers ministres n'ont pas apprécié ses positions.
Prospěch paní Jourové, protože byla úspěšná komisařka, měla těžké portfolio, ne všichni premiéři měli rádi.
C'est ainsi que le Premier ministre Andrej Babiš a décrit sa rencontre avec Ursula von der Leyen, précisant que la nouvelle présidente de la Commission européenne n'avait pas fait de commentaires sur la candidature renouvelée de l'eurocommissaire tchèque. Celle-ci doit encore être validée par Ursula von der Leyen en personne, ainsi que par le gouvernement tchèque, mais surtout par le Parlement européen. Nommée il y a 5 ans par le mouvement ANO d'Andrej Babiš, Věra Jourová, 54 ans, est jusqu'ici la commissaire européenne à la justice, aux consommateurs et à l'égalité des genres. Juriste de profession, classée récemment en tant que première tchèque parmi les 100 personnalités les plus influentes dans le monde par le magazine américain Time, Věra Jourová s'est beaucoup impliquée dans la mise en place du règlement européen sur la protection des données personnelles et aussi dans la lutte contre la fraude alimentaire au sein de l'Union européenne. C'est sur cette voie qu'elle aimerait continuer si son second mandat de commissaire européenne est approuvé, Věra Jourová.
Le domaine numérique m'intéresse particulièrement car il est étroitement lié à la protection des données personnelles qui faisait partie de mon agenda. Il serait ainsi facile pour moi de renouer à mon précédent travail. C'est un domaine qui m'attire par son importance car le numérique et l'intelligence artificielle influenceront sans aucun doute notre futur et on peut s'attendre à une évolution dans ce sens. Être en charge du numérique au sein de la Commission européenne demandera donc une certaine créativité, ce qui me plairait bien.
Pour sa part, Ursula von der Leyen rencontre ces jours-ci les représentants de tous les États membres avec l'objectif de répartir les postes dans la future Commission européenne. La République tchèque est loin d'être le seul pays qui sollicite les portefeuilles importants consacrés à la politique budgétaire, au marché intérieur ou au commerce international. Toutefois, selon les représentants de l'opposition, la Tchéquie apparaît affaiblie dans cette course aux postes importants en raison de l'audit concernant le potentiel conflit d'intérêts du Premier ministre Babiš en lien avec l'obtention de subventions européennes. Antonín Staněk ne sera plus ministre de la Culture à partir du 31 juillet. L'annonce a été faite lundi par le porte-parole du président de la République qui met ainsi fin à une étrange séquence pendant laquelle la coalition gouvernementale a montré quelques signes de faiblesse. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Antonín Staněk avait posé sa démission dès le mois de mai à la demande de la direction de son parti, le Parti social-démocrate ČSSD, qui souhaitait le remplacer par Michal Šmarda. Cela aurait pu faire l'objet d'un simple mini-remaniement ministériel, comme il y en a eu régulièrement ces derniers mois, mais c'était sans compter avec le chef de l'État qui complique la tâche du parti qu'il a dirigé par le passé. Miloš Zeman avait en effet jusqu'ici refusé la démission du ministre social-démocrate, même après la demande de sa révocation par le Premier ministre Andrej Babiš. Le chef de l'État doit répondre favorablement à une telle demande, selon les termes de la Constitution, Constitution qui ne précise cependant pas les délais. Affaibli après un résultat calamiteux aux dernières élections européennes, le ČSSD a menacé de quitter la coalition gouvernementale si les ministères qui lui reviennent ne pouvaient être dirigés par les personnes qu'il désigne, comme le prévoit pourtant l'accord de coalition passé avec ANO, le parti du Premier ministre. Le ministre des Affaires étrangères, Tomáš Petříček, également vice-président du ČSSD, estime que, même tardive, la révocation du ministre de la Culture est la fin d'un épisode qui doit permettre de clore le feuilleton politique de l'été. On l'écoute.
C'est un pas vers une résolution de la situation actuelle. Nous attendons dans le même temps que le président nomme le candidat de notre parti à la tête du ministère de la Culture dans les délais les plus courts.
Michal Šmarda, maire de Nové Město na Moravě et également vice-président du ČSSD, reste donc pour l'heure le candidat du parti pour devenir le prochain ministre de la Culture. Mais le président de la République a mis en doute ses compétences pour assurer cette fonction et il indiquait vouloir prendre une décision mi-août. En attendant, le ministère devrait être mis sous la responsabilité d'un des deux adjoints actuellement en poste. Après la grande manifestation du mois de juin contre le Premier ministre Babiš, ce feuilleton du ministère de la Culture est pour beaucoup de commentateurs, dont Jindřich Šidlo, le signe d'une certaine présidentialisation du régime souhaité par Miloš Zeman.
Miloši Zemanovi zbývají v politice posledních 3,5 roku.
Il reste 3 ans et demi avant la fin de Miloš Zeman en politique et un peu plus de 2 ans avant les prochaines élections législatives. Si Babiš ne se reprend pas, il ne va être pendant cette période qu'un simple exécutant au service de la majorité présidentielle. Il avait pourtant donné l'impression avant d'avoir davantage d'ambition.
De retour de Bruxelles, où il a rencontré la veille la présidente de la future Commission européenne, Andrej Babiš a présidé ce mardi son dernier Conseil des ministres avant les vacances du gouvernement et un peu de répit. Audits européens sur ses conflits d'intérêts, décisions sur son inculpation dans l'affaire du nid de cigogne et perspectives de nouvelles manifestations, la rentrée s'annonce déjà tumultueuse à Prague.
Le Fonds pour la cinématographie a coupé le robinet des aides financières aux productions étrangères à la mi-juillet face à une demande bien plus importante que ses moyens à disposition. En 2010, le gouvernement tchèque avait mis en place une politique proactive visant à attirer les productions cinématographiques internationales dans le pays via des incitations fiscales avantageuses. Un intérêt qui ne s'est en effet pas démenti depuis, comme le raconte Anna Kubishta.
Dans le dernier Spider-Man, le super-héros s'offre une balade romantique sur le pont Charles. Et combien de séries censées se passer à Amsterdam ou en France, où l'œil avisé reconnaîtra des vues de Prague ou de tels châteaux tchèques? Les cinéastes étrangers viennent depuis des années tourner leurs films en République tchèque, tant pour les décors qu'en raison de la réputation des professionnels du secteur. Les bas coûts de production et les incitations fiscales instaurées il y a quelques années y sont évidemment aussi pour beaucoup. Par exemple, rien que depuis le début de l'année, les productions étrangères ont déjà dépensé 5 milliards de couronnes, soit 195 millions d'euros en Tchéquie, soit la même somme que pour l'ensemble de l'année 2018. 60% de cette coquette somme est allée à des secteurs comme l'hôtellerie et le reste aux professions liées à la production cinématographique, cascadeurs, assistants et ainsi de suite. La République tchèque rembourse à hauteur de 20% sous forme de subventions ou de crédits d'impôt des sommes dépensées par les sociétés étrangères pour les besoins de leur production. Mais le Fonds pour la cinématographie vient de se voir contraint à couper le robinet de ses aides financières. Les caisses sont vides, a fait savoir la directrice du fonds, Helena Bezdiek-Frankova, qui, pour satisfaire aux demandes des productions étrangères, aurait besoin d'un demi-milliard de couronnes. Une somme que ne peut actuellement débloquer le ministère de la Culture, a fait savoir sa vice-ministre chargée de la section art vivant. Selon le producteur de cinéma Radomir Dočekal, l'actuel imbroglio autour de la révocation du ministre de la Culture et de la vacance qui s'ensuit n'a pas aidé à améliorer la situation. Selon la directrice du Fonds pour la cinématographie, il est peu probable que les productions étrangères viennent tourner en République tchèque sans la garantie de ces incitations fiscales. D'autant moins que d'autres pays de la région proposent des crédits d'impôt plus généreux. 33% en Slovaquie, 30% en Pologne voisine, 35% en Roumanie. La République tchèque s'est essayée au tournage sans incitation fiscale entre 2004 et 2010. On est passé d'un chiffre d'affaires de 6 milliards de couronnes à 1 milliard. Sans ces incitations, nous ne sommes pas attractifs, concède encore Helena Bezdiek-Frankova.
Mohamed Sina Ostovar est pharmacien à Rabat. Son père était le premier gynécologue iranien au Maroc et son oncle a étudié la pharmacie à Bratislava du temps de l'ancienne Tchécoslovaquie. Étudier à l'étranger était tout à fait courant dans notre famille, explique-t-il. Lui-même a d'abord opté pour la France, mais c'est dans la Tchécoslovaquie post-communiste qu'il a finalement obtenu son diplôme universitaire avant de rentrer définitivement au Maroc. C'est en février 2018 à Rabat que Mohamed Sina Ostevar nous a raconté son parcours. Nous vous proposons cet entretien en rediffusion.
Panorama.
Panorama.
Je n'ai pas fait que des études de pharmacie en Tchécoslovaquie parce qu'à l'époque où je suis parti en 90-91, c'était encore la Tchécoslovaquie, j'ai commencé par faire une année de langue à Dobrouchka. Ça a été mon premier contact avec la République tchèque. Après, j'ai intégré effectivement la faculté de pharmacie à Brno, où j'ai fini mes études en 98. Après, j'ai intégré le centre hospitalier universitaire de Olomouc, où j'ai travaillé au service de microbiologie et d'immunoanalyse. Et après, j'ai eu l'honneur de pouvoir aussi travailler à l'hôpital militaire de Olomouc, Hradisko, où j'étais au laboratoire de biochimie et d'hématologie. Après, en 2000, je suis rentré au Maroc, où j'ai actuellement une officine.
Donc à l'époque, c'était votre choix, la Tchécoslovaquie ?
Tout à fait. Tout à fait. J'ai
un oncle... Je sais que vous n'étiez pas le seul. Il y avait beaucoup de Marocains. J'en ai rencontré un autre, d'ailleurs, à Casablanca, qui a fait des études de pharmacie à Brno. Une année à Dobrouchka également.
Effectivement, c'est mon cousin. Après, j'ai eu un autre cousin aussi qui nous a rejoint, qui a fait aussi pharmacie. Une cousine aussi qui nous a rejoint, fait pharmacie. Et nous avions aussi un ami qui est aujourd'hui au Canada, qui a fait pharmacie aussi avec nous. Mais nous n'étions pas beaucoup de Marocains. Et nous étions pratiquement tous de la même famille. Comme je vous ai dit, mon premier contact, ça a été à Dobrouchka, le centre de langue. Et là-bas, il n'y avait que des étrangers. Alors dans ma classe, nous avions plusieurs nationalités et plusieurs continents représentés. Nous avions un ami, d'ailleurs... auquel je pense souvent, Petros Mavrogenis, un chypriote. Il y avait des Syriens, des Yéménites. Il y avait même André, un malgache. Et puis aussi des étudiants venus de Zambie et du Bénin. Et du Cap-Vert aussi. Mais tout ça à Dobrouchka, donc. Et Dobrouchka était un centre spécialisé pour les étudiants qui se préparaient à faire des études universitaires dans le domaine médical, paramédical et aussi agronomie, pour les étudiants qui voulaient intégrer l'école d'agronomie à Prague.
Quel est le souvenir que vous avez gardé de cette année à Dobrouchka ?
C'était vraiment une année... au début, quand on va aussi loin et qu'on ne maîtrise ni la langue et qu'on ne connaît pas la culture, on a quelques appréhensions. Mais tout s'est très très bien passé et j'en garde un très très bon souvenir.
Et de vos années, disons déjà professionnelles, en République tchèque ?
Alors, nous allons bien entendu parler un petit peu de la vie d'étudiant. Je suppose que tout étudiant se souvient de cette époque-là avec beaucoup de nostalgie. C'est mon cas. Et je dois mettre l'accent sur le fait que j'ai été immédiatement très très bien intégré, que j'ai des amis... Je vois encore aujourd'hui, d'ailleurs la semaine dernière, nous avons skié ensemble avec mes amis qui ont fait leurs études avec moi. Nous nous voyons très régulièrement et nos enfants ont grandi ensemble.
Ensuite, vous avez pris la décision de revenir au Maroc. Pour quelle raison ?
Je suis rentré au Maroc parce que dès le départ, je pensais revenir au Maroc, c'est-à-dire faire des études en République tchèque et après venir travailler au Maroc. À un tel point qu'au début, quand je suis parti à Dobrouchka, je ne pensais pas finir en pharmacie. Je voulais intégrer l'école d'agronomie de Prague, où il y avait une spécialité de culture tropicale et subtropicale. Donc j'avais vraiment dès le départ l'intention de revenir. Mais je vais deux, trois fois par an en République tchèque avec énormément de plaisir.
Quels sont vos souvenirs de la République tchèque, du pays, donc des années 90 ?
Alors, je pense que, bien entendu, le pays a évolué. Le regard que je porte sur ce pays qui est magnifique a aussi évolué. Mais j'y vais régulièrement et à chaque fois avec énormément de plaisir. Pour une petite chose qui m'avait un petit peu... qui m'avait un petit peu rendu attristé, c'était le fait que les grands centres commerciaux ont tué les centres-villes. Moi, je me souviens de Brno dans les années 90. Le centre-ville était magnifique, il y avait des petits cafés qui avaient un charme particulier, des petits restaurants, des jolies boutiques. Et pendant un moment, après l'apparition des centres commerciaux, les centres-villes ont un petit peu dépéri. Mais là, depuis deux ans, je pense que ça refleurit.
Les Tchèques ont-ils changé depuis les années post-révolutionnaires ?
Pas avec moi, je n'ai jamais ressenti un changement. Mes amis sont toujours mes amis et ce sont toujours les mêmes choses qui nous font rire.
Et aujourd'hui, avec, est-ce que vous ressentez cette méfiance à l'égard des étrangers dont on parle souvent en République tchèque, surtout évidemment à l'égard des musulmans?
Alors, je vais quand même parler du fait que j'ai été marié avec une tchèque, avec Petra, et que j'ai un fils qui vit en République tchèque qui s'appelle Ali. Et sincèrement, il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais ressenti la moindre... Non, je ne pense pas que ce type de problème, que nous ayons été concernés par ce type de problème. Mais si je peux dire quelque chose, je trouve quand même amusant que quelqu'un qui s'appelle Okamura puisse critiquer les étrangers.
Le tchèque, la langue tchèque, vous... Vous ne l'avez pas perdu, évidemment. D'abord, est-ce que c'était une langue facile, finalement, à apprendre?
J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, il m'est quand même difficile de lire les classiques tchèques en tchèque.
Ben, vous faites l'effort quand même, c'est assez rare.
J'essaye, mais c'est quand même très difficile. C'est une langue qui est très riche et qui permet beaucoup de donner beaucoup de sens à une phrase avec juste un suffixe ou un préfixe qui diffère. Et j'aime beaucoup cette langue. J'aime beaucoup cette langue, elle permet vraiment de s'exprimer en toute liberté.
Est-ce que vous vous sentez être un peu quelqu'un d'autre quand vous parlez tchèque?
Effectivement, c'est vrai que quand je passe du français à l'arabe, de l'arabe au tchèque, je m'exprime de manière peut-être différente, mais les idées restent quand même les mêmes.
Les Tchèques et les Marocains ont-ils quelque chose en commun?
Certainement. Les Tchèques et les Marocains ont certainement en commun le sens de l'hospitalité, l'amour des belles choses et le sens de la convivialité.
Donc maintenant, vous tenez une pharmacie ici à Rabat. Est-ce que professionnellement aussi, vous êtes en contact avec la République tchèque?
Quand je vais régulièrement en République tchèque et tous mes amis sont soit pharmaciens, soit travaillent au... alors je connais pas, je ne sais pas comment on dit ça en français, soukel. Donc j'ai l'occasion de visiter, de passer quelques heures dans les pharmacies. J'ai même eu l'occasion de passer quelques heures dans une pharmacie d'hôpital. Ce qui me concerne le plus vu mon travail aujourd'hui, oui, j'essaye de me tenir, de regarder, de voir les nouveautés, de me tenir au courant de ce qui se passe en République tchèque, oui, bien sûr.
Vous avez aussi des médicaments tchèques dans votre pharmacie?
Non, malheureusement, ici au Maroc, le marché est détenu depuis longtemps par des sociétés plus européennes, disons françaises et anglaises surtout.
Et peut-on comparer le secteur de la santé tchèque et marocain?
Le système est très différent, en grosse partie à cause du système d'assurance. Qui est très ancien en République tchèque. Au Maroc, c'est encore tout nouveau. Ce sont les premiers pas. Les gens n'étaient pas assurés. Il n'y avait pas une partie du salaire qui était consacrée à une assurance maladie. Ça n'a vraiment que quelques années ici. Disons que ça commence à se mettre en place, ça fait peut-être 4-5 ans.
Et les gens pauvres, démunis, ont-ils accès aux soins médicaux?
Ils ont accès aux soins médicaux dans les centres de santé qui ne sont pas toujours bien équipés. Ils ont aussi, par exemple, au niveau de la pharmacie, il n'y a pratiquement pas d'assurance valable. Les gens démunis n'ont par exemple pas accès aux médicaments.
Est-ce qu'il vous arrive dans votre pharmacie d'offrir des médicaments aux gens qui en ont besoin, qui n'ont pas d'argent?
Alors, il arrive effectivement parfois... vous savez, tous les gens qui vont à la pharmacie ont un besoin de médicaments. Mais il est vrai que parfois la situation est difficile et que je me permets d'intervenir dans ce sens-là. Il y a parfois des patients qui viennent avec une ordonnance et qui me demandent qu'est-ce qu'il y a dans cette ordonnance. Je dis voilà, vous avez ceci et ceci. Ils me disent quel est le plus important. Ou alors est-ce qu'il y a une injection? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une forme injectable? Si je dis oui, ils me disent oui, donnez-nous que la forme injectable par exemple. Donc quand c'est possible, effectivement, Si j'ai souvent des échantillons que me donnent des échantillons médicaux gratuits que me donnent les laboratoires, je les consacre à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est le but, je crois.
Existe-t-il une coopération entre la République tchèque et le Maroc dans le domaine de la santé? Y a-t-il des échanges de jeunes médecins, par exemple, ou d'étudiants en médecine?
Échange de jeunes médecins, je ne suis pas au courant, mais je sais que depuis bientôt deux décennies, il y a eu une coopération au niveau de la médecine vétérinaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains vétérinaires que je connaissais de Brno, parce que c'était la même université pharmacie et vétérinaire. Et j'ai même rencontré une enseignante de parasitologie que je connaissais de la faculté. Je l'ai rencontrée à Fès et elle travaillait dans un hôpital qui est consacré aux animaux qu'on utilise pour le transport dans la vieille ville, c'est-à-dire les ânes et les mulets. Surtout.
Pour revenir à la République tchèque, y a-t-il une personnalité tchèque ou des personnalités tchèques de différents secteurs de votre choix, culture, médecine, politique, que vous estimez particulièrement, qui vous a influencé dans votre vie?
Oui, alors bien sûr, je pense que toutes les personnes qui ont pu avoir la chance de vivre en République tchèque ont été plus ou moins atteints par la personnalité. Et je pense à M. Václav Havel, qui bien sûr a eu des... Oui, bien sûr, je pense que oui, j'ai été dirigé par ce monsieur d'une certaine manière, oui, je pense. Et autrement, aujourd'hui, en parlant des politiques actuelles, Schwarzenberg. Sans hésitation, parce que c'est un chasseur et que je suis chasseur aussi.
Vous suivez la politique tchèque, j'ai l'impression.
Oui, tous les matins, quand j'ai le temps, je regarde Seznam sur mon écran d'ordinateur, quand il y a quelque chose de particulièrement intéressant ou un événement que je suis, par exemple, je passe aux autres journaux, par exemple, Mladá Frontál.
Y a-t-il une phrase en tchèque que vous aimez particulièrement? Un proverbe ou une expression, un mot?
Un mot, non, mais parfois quand je suis avec des amis en République tchèque, j'aime bien leur dire que jsem Maročan iranského původu, ale moje srdíčko bije česky, nebo českým tempem spíš.
En français?
En français, je suis un Marocain d'origine iranienne avec un cœur qui bat au rythme tchèque.
C'est sur les propos de Mohamed Sina Ostovar que se termine le programme de Radio Prague en français. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve demain sur Radio Prague. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions au www.radio.cz/fr et aussi sur les réseaux sociaux. À demain. Naslyšenou.